Chapitre 36. Bella s'effondra, le téléphone se mit à sonner et j'entendis ma propre voix déchirer ma gorge. Connard ! Je me jetai sur Charlie en visant avec mes doigts soudés le creux à la base de son cou. Il roula à terre en s'agrippant à mon avant-bras et me lacéra avec son cran d'arrêt. Je basculai et nous devînmes un enchevêtrement de bras et de jambes. Dans la partie froide de mon cerveau, celle qui préférait regarder plutôt qu'agir, je me dis que ce n'était pas le genre de combat auquel je m'étais préparé. Pas de jolis jeux de jambes, pas d'esquives gracieuses de coups bien calculés. Non, grognant et haletant, nous nous bourrions furieusement de coups en roulant sur le plancher. Je sentais le goût salé de la sueur qui perlait sur mon visage, des brûlures sur mes mains et mes bras. Charlie continuait à distribuer les coups de couteau comme un forcené. Je continuais à le frapper au visage. J'essayais de la main droite d'atteindre ses yeux tout en me défendant de la gauche. J'étais plus rapide, il était mieux armé. Je saignais, il haletait. Il donna un coup de couteau à gauche, m'ouvrit la joue. Je lui assénai un violent coup du plat de la main dans le sternum et il retomba en arrière, le souffle coupé. Je posai mes mains sous moi, me relevai en vacillant, titubai vers la porte. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas abandonner Bella. Il la tuerait, c'était certain. Il s'était déjà relevé, s'avançait d'un pas chancelant. Je reculai précipitamment vers les placards de la cuisine. Il avançait toujours. Je tendis la main derrière moi, tâtai des doigts l'arête du placard en bois. Il arriva à portée. Je lançai mon pied vers son menton. Il esquiva en se baissant et je montrai enfin un peu d'adresse, en inversant mon mouvement pour frapper le sommet de sa tête et la rabattre vers ses genoux. Pas aussi fort que je l'aurais voulu, mais assez pour être efficace. J'ouvris le placard et commençai à chercher parmi les piles désordonnées de la batterie de cuisine. Charlie se redressait. « Vite, vite !» Alors je trouvai le bord de ma poêle en fonte. L'arme idéale. Charlie recommença à avancer et je m'apprêtais à faire une chose que je n'aurais jamais pensé faire. Tuer un être humain. Soudain, au loin, le bruit le plus agréable que j'ai jamais entendu. Des pas lourds dans l'escalier. Charlie se figea. Je m'immobilisais. Bobby, pensais-je. Bobby, qui vient à mon secours? Un uniforme UPS marron surgit dans mon appartement. Ben ! M'étranglai-je. Juste au moment où Charlie demandait « Benji ?» et où Ben répondait interloqué « Christopher ?» Bobby fut pris dans les embouteillages, forcément. Parce que c'était Boston, où conduire est un sport sans pitié, et où le fait que l'autre véhicule est une sirène et vous non n'est pas une raison pour éviter de vous comporter comme le dernier des abrutis. Il composa à nouveau le numéro d'Annabelle, tomba sur le répondeur, raccrocha, frappa du poing sur le volant. « On se calme !» railla Didi. « Ce n'est pas normal. »« Parce que la douce n'attend pas à côté du téléphone en se rongeant les ongles ?» Il lui lança un regard assassin. Sérieusement, elle savait que je revenais la conduire à l'hôtel. Elle ne serait pas partie comme ça. Didi haussa les épaules. « Elle a une chienne. Peut-être qu'elle avait besoin de la sortir ou de l'emmener courir. » « Ou peut-être, dit gravement Bobby, que Marvin est plus fort que nous sur ce coup-là. » Son téléphone sonna. Il l'ouvrit sans prendre la peine de regarder l'écran. Ce n'était pas Annabelle, mais son collègue, le capitaine Jason Murphy, de la police d'État du Massachusetts. « Cherchez Roger Grayson, comme tu me l'as demandé, » débita Jason tel une mitraillette. « Trouvez la trace d'un box dans un garde-meuble sur la Nationale 2 au nord d'Arlington. Grayson payait les frais d'avance par tranche de 5 ans. Le dernier versement remonte à plusieurs années, donc le proprio a fait valoir son droit de rétention. En fait, si on veut venir tout débarrasser, ça marche pour lui. Il voudrait remettre le box en circulation. » « Parfait. Passé judiciaire négligeable, rien qu'une infraction au code de la route et c'était il y a 25 ans. Grayson doit être un vrai petit saint. »
« Infraction au code de la route ?»«
Excès de vitesse, 15 novembre 1982. » Pris à 75 dans une zone à 60.
15 novembre 1982. 3 jours après la disparition définitive de Dori Petracelli.
Quoi d'autre ? Demanda Bobby à son collègue.
Quoi d'autre ? J'ai commencé il y a à peine une heure, Bobby.
Et Walter Petracelli ?
Rien encore.
Tu me tiens au courant ?
À ton service. Et entre nous, Bobby, ne laisse pas ce boulot pour la police municipale te monter à la tête.
Jason raccrocha. Bobby remit le téléphone dans sa poche de poitrine, il actionna à nouveau ses sirènes, sans résultat. La circulation était trop congestionnée pour qu'aucune voiture puisse libérer le passage. Il consulta sa montre, ils étaient maintenant sur Atlantic Avenue, à 2, peut-être 3 kilomètres de chez Annabelle.
« Je me gare », annonça-t-il.
« Quoi ?
Oublie la voiture, Didi. On est fort, on est rapide, on y va en courant. »
« Ben, Ben, Dieu merci, vous êtes là !» Il a poignardé Bella. Il est fou. Il faut nous aider. Bella, ma pauvre, je suis là, ma fille. Tout va bien, ça va aller.
J'avais lâché la poêle en fonte pour m'occuper de ma chienne, que je pris sur mes genoux. Je sentis son sang chaud qui suintait, souillant son beau pelage blanc. Elle gémit, essaya de me lécher les mains, de soigner sa coupure.
« Ben !»
criai-je à nouveau. Mais Ben ne bougeait pas. Il restait sur le pas de ma porte en regardant Charlie Marvin.
« C'était toi ! Bon sang ! Il faut vraiment se méfier de l'eau qui dort !»
dit Charlie.
« Elle est à moi !» affirma Ben. « Tu ne peux pas la voir !»« Elle est à moi !»«
Appelez la police !» sanglotai-je. « Appelez le 911, demandez le capitaine Bobby Dodge, qu'ils appellent le SAMU. Je ne sais pas qui ils envoient pour les chiens, mais une ambulance devrait faire l'affaire. Ben, vous m'écoutez ? Ben !»
Ben me regarda enfin. Il entra dans mon petit appartement, referma la porte et commença à actionner les verrous un à un derrière lui.
« Tout va bien maintenant, » dit-il solennellement. « Oncle Tommy est là, ami. Je vais m'occuper de tout. »
Charlie éclata de rire. Le bruit se mua rapidement en un râle bruyant. Le coup au sternum avait cassé un truc. Maintenant que le bourdonnement diminuait dans mes oreilles, je prenais conscience de mes propres douleurs. Mes côtes meurtries, mes chevilles lacérées, ma joue entaillée. Au moins j'avais rendu coup pour coup. L'œil droit de Charlie était presque fermé sous l'enflure. Grimpant pour s'éloigner de Ben, il s'appuyait plutôt sur son côté gauche, haletait comme s'il avait mal. Mon cerveau ne traitait plus les informations. Je me fichais de Charlie, je ne comprenais pas Ben. Je voulais juste sortir Bella de là. Je voulais que ma chienne soit en sécurité. Et c'était le mieux à faire, de se concentrer là-dessus, parce que la conversation qui roulait autour de moi était trop épouvantable pour y croire.
« Comment tu les as tués ?» demandait Charlie. « Une par une ? Deux par deux ? Comment tu les as attirés ? De mon côté, je m'en suis toujours tenue aux prostituées. Elles ne manquent jamais à personne.
« Tu lui as fait du mal, »
dit Ben sans quitter Charlie des yeux.
« Je t'ai cherché, Benji, depuis le jour où j'ai découvert la cavité. Dire que je me trouvais malin, à travailler auprès des sans-abri pour que personne ne se demande ce que je faisais tel soir à tel coin de rue. Pourquoi je connaissais autant de putains qui disparaissaient. Mais ça, l'ingéniosité de cette cave, une réussite aussi exceptionnelle, je n'en suis pas revenu. Si seulement j'avais eu l'idée le premier. Oh, tout ce que j'aurais pu faire.
Elle saigne.
Combien de temps tu les as gardés en vie? Des jours, des semaines, des mois? Là encore, que de possibilités. Ma couverture était idéale pour bien profiter de la traque. Mais ensuite, c'est le manque de temps. La nécessité de faire vite, 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 qui m'a toujours ennuyé. On dépense tellement d'énergie à les attirer, à créer un lien, et ensuite, juste au moment où on commence à s'amuser, il faut être pragmatique. Quelqu'un pourrait entendre du bruit, se poser des questions. Il faut couper court à la petite idylle et en finir. Ça ne vaut rien d'attirer l'attention sur soi, même pour celle auquel on tient. « Dis-moi la vérité, » continua Charlie. « Est-ce que ce que j'ai fait ne t'a pas un tout petit peu inspiré ? L'infirmière en 75 ? Un coup de tête, j'étais dans le parc, elle aussi. Une chose en a entraîné une autre. Le plus grand événement qu'ait jamais connu l'hôpital psychiatrique, enfin, jusqu'à la découverte de ta fosse. Benji, Benji, tu m'écoutes ?
Ben se pencha sur Charlie. L'expression de son visage me fit dresser les cheveux sur la tête. J'enfonçai mes doigts dans le pelage de Bella, je la suppliai intérieurement de ne pas faire de bruit. Je posai une main par terre et commençai à glisser silencieusement avec Bella vers la porte.
« Tu as fait du mal à mon ami, » dit Ben. « Maintenant, je dois te faire du mal. »
Au dernier moment, Charlie sembla comprendre qu'il n'avait pas d'allié. Réalisant le danger qu'il courait, il leva son cran d'arrêt. Ben lui attrapa le poignet d'une main puissante. J'entendis les os craquer. J'atteignis la porte, me levai comme une folle, me débattis avec les verrous. Pourquoi ? Oh, pourquoi avais-je autant de verrous ? Je pouvais ne pas regarder, mais je ne pouvais rien faire pour ne pas entendre. Mon oncle, qui arrachait le cran d'arrêt de la main écrasée de Charlie Marvin, et qui très soigneusement l'enfonçait jusqu'à la garde dans l'œil de Charlie Marvin. Un hurlement, un bruit d'éclatement mouillé, une longue plainte sourde comme le sifflement de pneus qu'on laisserait se dégonfler. Puis le silence.
« Oh, ami, » dit Ben.
Ce fut plus fort que moi. Recroquevillé avec Bella contre la porte verrouillée, je fondis en larmes.